Bonjour auditeurs de Radio B 90 FM. Sur vos bonnes ondes, nous nous retrouvons pour une nouvelle chronique du passé. Bonjour Gilliane.
Bonjour Martine. Bonjour à vous tous, à mes auditeurs. À cause de la guerre en Ukraine, l'actualité n'est guère réjouissante. Mais la Bresse se montre solidaire avec l'accueil de réfugiés. Et que nous a préparé Rémi en résonance avec cette actualité ?
L'accueil de réfugiés en Bresse depuis un siècle.
Cela nous ramène donc à la Première Guerre mondiale, celle de 1914-1918.
En effet, et nous en parlerons après quelques notes de l'été d'Antonio Vivaldi.
Nous ouvrons le dossier de l'accueil de réfugiés en Bresse depuis un siècle, donc depuis la Grande Guerre. Mais les premiers réfugiés ne sont pas de véritables réfugiés.
Oh, c'est exact, Gilliane. Ce sont davantage des personnes évacuées que des réfugiés. Au début du XXe siècle, les plans militaires français prévoient l'évacuation des places fortes, proches de la frontière, après mobilisation de tous les hommes en âge de combattre. La place forte la plus proche de l'Ain est celle de Belfort.
La mobilisation générale est décrétée le 2 août 1914. Aussitôt, on prépare l'évacuation d'une partie de la population civile, les bouches inutiles.
En ce terme, désigne les enfants, les femmes et les vieillards. Les autorités préfèrent les nourrir ailleurs que dans les places fortes. Les bouches inutiles de Belfort sont donc déplacées vers le Jura et l'Ain.
Le plan prévoit que l'Ain devra en accueillir 11 250, soit 4 490 pour la ville de Bourg et 6 760 pour les communes situées en bordure des voies de chemin de fer. Cela représente une charge importante pour ces communes, une augmentation de population de 13%. Bourg recevra environ 4 500 personnes, ce qui est conforme à ce qui avait été demandé. L'Ain 55, Polia 121 et Viria 201. Mais alors, comment est conçu l'accueil ?
C'est aux maires de l'organiser. À eux d'attendre les évacués en gare avec des véhicules fournis par leurs administrés. À eux, ensuite, de les répartir au mieux au sein de la commune.
L'évacuation débute à Belfort dès la première semaine de guerre. Les évacués prennent un peu de bagages, ferment leurs appartements, remettent leurs clés en mairie et se dirigent en gare pour monter dans des trains spéciaux. Les arrivées dans l'Ain sont moins nombreuses que prévues, mais ils sont quand même 7 000 au lieu des 11 250 prévues. Les évacués sont bien accueillis. Ils sont installés dans des locaux rendus disponibles par la dépopulation de nos contrées. C'est l'été, on vit en extérieur. Tout va bien.
Cela se gâte un peu à l'automne. Les nouvelles qui viennent du front ne sont pas celles espérées. À l'automne, il apparaît que la guerre va durer et que les réfugiés vont rester. Ils sont venus sans vêtements d'hiver, et la Bresse ne peut leur en fournir.
Alors, après des négociations, les militaires permettent que des délégués aillent en chercher à Belfort pour plusieurs familles. Mais pendant l'hiver, les habitants sont dans les appartements, et la promiscuité avec les réfugiés devient plus difficile à supporter. Au printemps de 1915, comme le front est vraiment figé, des retours à Belfort sont autorisés.
Ces réfugiés ne sont pas encore partis, que d'autres arrivent déjà. D'abord des Serbes, alliés de la France, après leur défaite contre les Autrichiens à partir de décembre 1914. Mais d'autres réfugiés français arrivent aussi.
D'autres bouches inutiles, celles-ci expulsées par les Allemands des territoires français qu'ils occupent. Ils les évacuent en leur faisant traverser l'Allemagne pour les remettre à la Suisse. Là, la Croix-Rouge les accueille et les transporte jusqu'à Évian. De là, ils sont répartis sur l'ensemble de la France et donc aussi dans l'Ain. Pour toute la durée de la guerre, cela concerne 500 000 personnes.
C'est considérable. La France les accueille. En plus de son effort de guerre, en plus des blessés, eux aussi répartis sur l'ensemble du territoire. Au 30 juin 1915, le nombre de réfugiés dans l'Ain culmine à 5760. Ce total décroît ensuite jusqu'en 1918, moment où il va nettement progresser à cause de la dernière offensive allemande, heureusement stoppée.
La paix intervient enfin, en novembre 1918, et un an après, le département de l'Ain compte toujours 1250 réfugiés. Suivent des années de reconstruction et de paix. La main-d'œuvre manque et l'immigration devient économique, avec de nombreux Italiens pour le département de l'Ain. Mais cette période est de courte durée, car l'Allemagne passe sous la dictature d'Hitler, qui récupère d'abord la Sarre.
Cette région allemande, riveraine du Rhin, a été sous le contrôle de la France jusqu'en 1935, selon les conventions. À ce moment-là, la population se prononce par référendum pour un rattachement à l'Allemagne. Il y a 500 ouvriers d'une mine à rapatrier et ceux qui ont pris le parti de la France. Au pays d'Hitler, ils se sentent en danger et préfèrent être évacués en France. Quelques-uns sont accueillis dans l'Ain. Plus globalement, c'est le début d'une nouvelle époque troublée.
Notamment en Espagne, où la prise du pouvoir par les républicains est contestée par des militaires nationalistes. C'est la guerre civile. Et la conquête par les nationalistes du Pays basque espagnol entraîne des évacuations de civils par des navires anglais et français. Un premier convoi de 400 personnes arrive à Bourg le 19 mai 1937. Ils sont pris en charge par la ville avec l'aide du 5e régiment de tirailleurs marocains en garnison à Bourg. Ils sont hébergés pour quelques jours avant d'être répartis sur l'ensemble du département.
Certains restent hébergés dans les locaux de la jeunesse laïque de Bourg jusqu'en novembre 1937. Au total, 2200 réfugiés espagnols sont présents dans l'Ain. Leur rapatriement est organisé en 1939 lorsque le général Franco a conquis Madrid. Le drame suivant se déroule en Catalogne.
Oui, nous sommes du côté de Barcelone. Les républicains, défaits et acculés, franchissent la frontière française. Il y a des combattants, mais aussi des femmes et des enfants, qui sont regroupés dans des camps des Pyrénées-Orientales.
Des combattants républicains sont alors intégrés dans des groupements de travailleurs étrangers. C'est ainsi que, dans l'Ain, le génie va les employer pour empirer les traces de la forêt de Seillon afin d'entreposer des munitions. Ils sont hébergés dans des locaux de fortune à Perona, Laon et Sertine. Un autre groupe est stationné à Ambrenais. Leur travail est encore bien visible aujourd'hui, notamment avec les pierres de blocage en bordure de belles traces rectilignes.
La guerre survient peu après. Rien ne se passe sur le front ouest jusqu'à l'attaque fulgurante des Allemands en mai 1940. L'armée belge est submergée. La ligne Maginot est contournée. Et l'armée française est totalement désagrégée. Un mois après leur attaque, les Allemands sont à Bourg-en-Bresse.
Ils ont été précédés par des colonnes de civils qui fuient devant l'ennemi. La débâcle, de triste mémoire. Tout s'arrête avec la signature de l'armistice, applicable le 22 juin 1940. Le régime de Vichy s'installe, mais c'est le chaos avec cette France au service d'Hitler.
Il y a des réfugiés disséminés, mais rien n'est prévu pour les accueillir. Bien au contraire, on recherche d'abord les Juifs, puis, après 1943, les étrangers et tous les opposants. Certains réfugiés s'engagent dans la résistance. Quelques-uns décèdent sans avoir dévoilé leur identité. Ainsi, des tombes ne portent que la mention « inconnu ». Drôle de destinée pour des combattants morts au service d'un pays qui n'était pas le leur.
Cette guerre a été bien particulière et des hommes et des femmes avaient pressenti les conséquences du nazisme. En octobre 1939, ils ont créé la CIMAD, le Comité Inter-Mouvement auprès des évacués. pour venir en aide aux populations évacuées d'Alsace et de Lorraine. La CIMAD est née dans les milieux protestants, mais elle s'est mise au service de tous, sans distinction de religion.
Après-guerre, elle poursuit son œuvre au cœur des quartiers populaires des grandes villes pour proposer un accueil et des actions pour répondre aux besoins des immigrés qui arrivent en nombre. Apprendre le français, créer des loisirs et des activités favorisant une meilleure insertion dans la société. Elle a été très tôt présente à Bourg-en-Bresse et, après une interruption, l'antenne a été relancée depuis 2017. Elle œuvre auprès de réfugiés venus en Bresse pour de multiples raisons, économiques ou politiques. Une belle œuvre de solidarité.
Revenons à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le jour où la France célèbre la victoire le 8 mai 1945, un soulèvement a lieu à Sétif, en Algérie. Il est réprimé dans le sang et la violence. Le gouvernement ne prête pas attention aux aspirations du peuple algérien. Il est préoccupé par la guerre en Indochine.
Qui se termine en 1954 par une défaite. Il faut rapatrier, outre le corps expéditionnaire, les Français nés là-bas. Quelques mois plus tard, l'Algérie est secouée par des attentats lors de la Toussaint Rouge, le 1er novembre 1954.
C'est le début de ce qui va devenir une véritable guerre de plus en plus impitoyable de part et d'autre. Les accords d'Évian de mars 1962 mettent fin à la guerre, mais pas aux violences. Les Européens doivent quitter l'Algérie et beaucoup se réfugient en France. Ils sont répartis sur l'ensemble du territoire et l'un y contribue aussi. En août 1962, 5 mois après le cessez-le-feu, ils sont environ 3000 à résider dans l'Ain, avec leur lot de souffrances et de déchirements.
Martine, en guerre plus de 50 ans, nous avons évoqué beaucoup de douleurs, beaucoup de déracinements. Cela ne se termine jamais ?
Hélas non, Gilliane. Nous le voyons aujourd'hui avec l'Ukraine. Nous pourrions aussi évoquer un épisode du même ordre. Le coup d'État militaire de septembre 1973 au Chili. Les partisans de Salvador Allende, le président renversé, doivent s'exiler. Là, c'est le monde associatif qui se mobilise fortement pour les soutenir et les accueillir. Peu après, à Bourg-en-Bresse, ces réfugiés créent l'association sportive Chili-Latino-Américaine, qu'on appelle l'ASCLA. En dehors de cette œuvre de solidarité, celle-ci va participer au championnat de football de Bresse.
Ils n'ont guère eu l'espoir de retourner au pays. Souhaitons qu'il en soit autrement pour les Ukrainiens arrivés dans l'Ain.
C'est bien, sur cette note d'espoir, nous terminons cette chronique du passé. Nous nous quittons avec une chanson optimiste, enfant de tout pays, d'un réfugié, Enrico Macias, qui n'a pas cessé de parler de paix. Au revoir à tous, ainsi qu'à Jimmy à la technique. Au revoir, Gilliane.
Au revoir, Martine.
Enfant de tout pays, tendez vos mains, meurtrice, mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfant de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis.
Enfant de tout pays, tendez vos mains, meurtrice, mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfant de tout pays et de tout peuple, vous avez dans le cœur notre bonheur.
Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis.
Enfant de tout pays, tendez vos mains.
deviendra roi, vous pourrez vous reposer. Lorsque la joie couvrira nos prières, vous aurez droit à votre éternité. Et tous les rires de votre empire feront du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrice, mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur.